Marche du Monde, présentée par Véronique Guémard.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Aujourd'hui, à l'occasion du 1er mai, Journée internationale des travailleurs, la Marche du Monde revient sur les mouvements sociaux de 1936 à 1938 à travers l'histoire incroyable d'une photographie.
Mai-juin 1936, des millions d'hommes et de femmes, durement atteints par la misère et la crise, quittent le travail pour le réajustement de leur salaire, pour la diminution de la journée de travail, pour l'hygiène et la sécurité, pour la reconnaissance du droit syndical. Les outils se posent, les machines s'arrêtent. Les chantiers, les ateliers, les usines cessent le travail, se hérissent de drapeaux rouges et tricolores.
Nous sommes en mai 1936. Plus de 2 millions d'ouvriers, d'employés et même de cadres se mettent en grève et occupent leur lieu de travail dans toute la France. Le Front populaire, qui réunit les trois principaux partis de gauche, vient de remporter les élections législatives, avec à sa tête le socialiste Léon Blum, qui ne prendra ses fonctions qu'un mois plus tard, en juin 1936. Après la grande crise de 1929 et la forte mobilisation pour contrer la montée de l'extrême droite, les ouvriers réclament de meilleures conditions de travail et mettent la pression sur le gouvernement tout juste élu. Des négociations avec le patronat aboutissent en juin à la signature des accords de Matignon qui accordent des avancées sociales inédites. Une période euphorique alors que la guerre d'Espagne éclate et que les prémices de la Seconde Guerre mondiale sont là. Le photographe Willy Ronis a immortalisé ces batailles ouvrières, notamment entre 1936 et 1938. Bonjour Tanguy Perron.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions de l'atelier l'ouvrage Rose Zener et Willy Ronis, Naissance d'une image. C'est l'histoire d'une photo iconique de Willy Ronis, célèbre photographe dont les parents ukrainiens avaient fui les pogroms pour se réfugier en France. Willy Ronis couvrait donc dans les années 30 ces grandes grèves où pour la première fois les ouvriers occupaient des usines. Tout d'abord, Tanguy Perron, décrivez-nous cette photo de la syndicaliste Rose Zener par Willy Ronis. Où sommes-nous et que se passe-t-il ?
Alors, nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, dans une immense usine, l'usine Citroën à Quai de Javel. Et donc, c'est une femme, Rose Zener, une militante qui prend la parole devant d'autres femmes. Et cette photo a une grande force. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent ou croient la connaître et ils peuvent se l'imaginer. Donc, cette femme prend la parole, elle domine d'autres femmes, elle tend le bras, elle ouvre la bouche, elle est penchée. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de force qui se dégage de ce corps, de cette femme qui prend la parole et que les femmes qui sont autour d'elle, il n'y a d'ailleurs que des femmes, sont extrêmement attentives. Les visages sont tournés vers elle, certains sont bougés. D'autres femmes tricotent tout en étant très attentives. Et si cette image a beaucoup de force, c'est à la fois par son contenu, par la force de ce qui dégage du corps de la militante, mais aussi, c'est aussi par sa composition. En fin de compte, même si c'est une image d'ouvrière, une image prolétarienne, elle est nimbée de toute une histoire culturelle. On ne peut pas s'empêcher de voir le serment du jeu de paume de David ou la liberté guidant le peuple de Delacroix dans la composition, dans la composition triangulaire, dans cette lumière quasi céleste qui descend du ciel. Donc il y a à la fois la force de cette femme qui proteste et la force de la composition de la photo.
Et on voit cette femme donc, qui est debout sur une table,
elle
donc
est
elle est au-dessus de toutes les autres femmes qui regardent.
Elle est debout sur une table, elle tend le bras, et son bras, il y a une espèce de lumière qui donne une couleur laiteuse à ce bras, et il y a une note dans un papier dans sa main, mais je ne pense pas qu'elle le lit pas, et on sent qu'elle est spontanée, la bouche est ouverte, l'autre main est posée sur sa cuisse, et effectivement elle domine toutes les ouvrières. Je pense qu'elle est sur une table, et c'était dans le réfectoire de l'usine, et c'est que des femmes de l'atelier de Sellery, c'est-à-dire que les femmes qui travaillaient chez Citroën pour la fabrique des sièges de voitures.
Alors cette photo a été prise le 25 mars 1938, Willy Ronis raconte son histoire dans une émission en juillet 2000 sur France Culture, car cette photo aurait pu disparaître à tout jamais.
C'est une photo qui a failli ne jamais voir le jour. C'est une photo qui faisait partie d'un rouleau, dans plusieurs rouleaux que j'ai fait avec mon Rolleiflex en 38 par une très mauvaise lumière. Et lorsque j'ai développé mes films en rentrant chez moi, cette photo-là Il m'aurait fallu un papier très contraste que je n'avais pas. Or, il fallait que je livre mon reportage à Regard avant 17 heures. Donc, je ne pouvais pas aller chercher ce papier. Ce qui fait que cette photographie, qui était la meilleure de mon reportage, n'a pas été publiée. Et puis, bon, j'ai été pris par mon travail, j'ai oublié. Il y a eu la guerre, l'oubli était total sur ce que j'avais fait avant. Et puis, je n'y ai plus jamais repensé. Jusque fin 1979, où, devant construire un livre rétrospectif qui devait paraître en 80 sous le titre « Sur le fil du hasard », je me suis mis en demeure de revoir tout ce que j'avais fait depuis 1926. Et en 1938, je suis tombé sur ce négatif quasi transparent, mais j'avais à ce moment-là le papier pour le tirer. Et cette photographie, donc, apparut en 80 alors qu'elle avait été faite en 38.
Tanguy Perron, cette histoire est absolument incroyable. Une photo qui paraît plus de 40 ans après et qui devient une icône du travail de Willy Ronis sur cette grande grève des années 30. Alors pourquoi cette photo en particulier transmet-elle autant de force? Vous avez décrit effectivement le personnage de Rose Zehner qui est sur cette table avec cette lumière incroyable. Mais ça montre aussi le combat qui est mené à ce moment-là, le combat aussi, qui est aussi un combat de femmes.
Oui, alors ça a beaucoup surpris peut-être, parce qu'il y a une vision sans doute un peu machiste de l'opinion publique et même des historiens. Là, on découvre dans ce petit livre, parce que je me suis appuyé sur des travaux d'historiennes en particulier, que les femmes sont très nombreuses dans la métallurgie, en particulier dans les métiers les plus pénibles et les moins bien rémunérés. Or, l'usine Citroën de Javel est une des plus modernes d'Europe et a une chaîne extrêmement importante, et il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la chaîne ou à l'atelier de sellerie, comme c'est le cas de Rose Zehner. Et puis, ce qui a rendu cette photo très célèbre, 40 ans plus tard, c'est à la fois sa composition, son contenu, sa force, sa beauté, mais c'est aussi les occurrences, les publications. Donc, le livre, comme le dit très bien Willy Ronis, est publié en 1980 sur le fil du hasard. Très rapidement, l'Humanité le publie, puis Le Monde, l'exposition est montrée à Beaubourg, et là, ça va commencer, l'aura de l'image va grandir. Willy Ronis et Rose Zehner vont se rencontrer, un film sera fait sur cette rencontre. Donc, tout ça, ça va participer à la légende de cette photo. Et effectivement, elle va être de plus en plus reproduite, parfois avec des contresens. Et elle va symboliser la victoire de 36 alors que c'est une grève de 38 et que c'est plus compliqué. N'empêche que la force de cette image avait tendance à dépasser son origine, même si c'est 40 ans plus tard.
Donc vous parliez de la main-d'œuvre féminine. Alors à l'usine Citroën, donc on dit que 20%, les femmes étaient 20% plus nombreuses, moins bien payées. Et finalement, on sent en fait aussi ce combat à travers cette photo.
Enfin, elles sont 20% du total de l'effectif, mais sur la chaîne, elles sont proportionnellement plus nombreuses. Mais cette photo participe aussi à la grande déconstruction d'un discours en montrant qu'il y a des femmes militantes. Il n'y a pas que Rose Zehner à militer. Alors, elles non plus, ce que j'ai voulu montrer dans ce petit livre, c'est que ce n'est pas pas la première fois qu'elle prend la parole. C'est une militante, une oratrice expérimentée, et qu'il y a d'autres femmes qui militent au sein de l'usine. Il fallait au moins une photo pour rappeler cette vérité.
Oui, parce qu'elle commence très tôt. Dès les premiers combats syndicaux, elle s'implique très fortement.
Alors, on ne sait pas exactement quand elle entre à Citroën Javel. Elle perd sa mère quand elle a 9 ans, donc j'imagine qu'elle s'embauche très tôt à Citroën dans les années 20. Et dès 1933, elle participe aux grèves, aux grandes grèves de Citroën, qui sont des grèves dures mais unitaires, pour lesquelles Jacques Prévert écrit un très beau thème qui s'appelle Citroën. Et puis sur des photos dans les archives de la CGT, j'ai vu, on voit parfois Rose Zehner en tête de manifestation, à côté de Jean-Pierre Timbaud, qui est un grand dirigeant syndicaliste qui sera fusillé à Châteaubriant.
Donc,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc bien avant cette photo qui est prise en 1938, il y a des traces tant effectives que Rose Zehner est une militante. Et des témoins, des amis à elle, des camarades vont, dans le film de Barberis, vont dire elle émet son 15e, elle a giflé un contremaître, elle a été saquée ou lourdée comme ils disent, et puis elle arrive à revenir dans le 15e arrondissement. Donc c'est une militante expérimentée.
Alors Tanguy Perron, nous allons revenir 2 ans en arrière, car ce qui se joue lors de ces nouvelles grèves de 1938 en découle directement. Que s'est-il passé en 1936 pendant ces grandes grèves de mai? Tanguy Perron, qu'est-ce qui se joue? Quelles sont les principales revendications en 1936?
Oui, alors c'est intéressant, ça montre que cette histoire est une histoire d'une assez longue durée, même si la durée de vie du Front populaire est brève. Il y a effectivement eu les grandes grèves de mai-juin 1936, la victoire électorale qui l'a précédée, et puis ces conquêtes, ces tensions, de nouvelles grèves, des rapports de force qui changent. Donc en 1936, effectivement, c'est très original dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire des gauches, c'est qu'il y a à la fois victoire électorale et mouvement social. Et ce mouvement social est original aussi, puisque c'est la première fois qu'il y a des occupations d'usines massives. Et qui d'ailleurs, ces occupations d'usines, non seulement font naître tout un folklore, une culture ouvrière importante, une culture populaire importante, mais aussi ça permet d'éviter les violences. Donc ils revendiquent une certaine... le mouvement ouvrier revendique l'ordre, en fait. Et la pression faite par ce nouveau mode d'expression sociale qui est l'occupation d'usines est extrêmement efficace, puisque la production est bloqué sans violence. Du coup, ce qui est obtenu en 1936 va au-delà du programme du Front Populaire. Il y a à la fois de fortes augmentations de salaire, mais aussi la diminution de la journée de travail, mais aussi les congés payés, mais aussi les conventions collectives et le droit syndical qui est reconnu. Vraiment, c'est extrêmement important dans l'histoire sociale du XXe siècle, avec autant d'acquis en si peu de temps.
Alors, les usines sont occupées, effectivement. Le ministre de l'Intérieur n'ordonne pas l'arrestation des meneurs des piquets de grève. Et puis, la vie s'organise donc pour occuper ces usines pendant plusieurs semaines. Tanguy Perron, chacun a son rôle, chacun a sa place, les hommes et les femmes.
Oui, alors il faut effectivement, dans une usine, il y a tout un art d'une occupation d'une usine. Il faut occuper les gens qui s'occupent et comment s'occupent-ils? Déjà, il y a des piquets de grève, on protège les machines, on nettoie les machines, on nettoie les ateliers, on occupe la nuit aussi, alors seulement les hommes. Rosener, elle voulait rester la nuit, mais ses camarades l'ont évacué. Et il y a toute une culture politique, une culture populaire, une espèce de syncrétisme, comme dirait Daniel Tartakovsky, qui se met en place. Du coup, ils viennent avec leur propre culture, ils peuvent jouer au foot, c'est plutôt les gars qui vont jouer au foot, il y a d'immenses activités de tricot, et c'est loin d'être anecdotique, puisque le tricot permet d'avoir une activité économique compensatrice, parce qu'on perd sa journée de travail, on est plus payé. Les familles populaires ont besoin de se vêtir, mais aussi ça peut être des actes de solidarité, puisqu'on tricote beaucoup pour l'Espagne. On prend la parole, on joue aux cartes, on organise des carnavals ouvriers. Il y a vraiment une espèce de folklore qui se crée, d'expression, de joie, puisque ces grèves sont joyeuses, en fait. Et ça, en ça, c'est extrêmement intéressant à voir. Et la joie permet l'unité aussi.
Et c'est justement ce qu'on entend dans ces témoignages sur les grèves recueillis en 1936 par la Radio Française.
Il y a des fois, on ne portait pas à manger. Il y a des fois, ils se contentaient avec leur briquet, comme ils disaient, puis leur gourde avec du café. Ça dépendait. Mais ils ne pouvaient pas toujours manger des tartines quand même. Alors, avec la gamelle, j'allais porter à manger. Les autres aussi, d'ailleurs.
Et les femmes, quand elles sont venues apporter à manger, eh bien, ça a été dans la boîte chez Caille, à très grand bal populaire, on dansait. Les femmes et les jeunes filles dansaient, leur mari, leur frère, tout le monde dansait. Et puis elles retournaient chez elles, elles nous laissaient là et nous passions la nuit. Et le lendemain matin, elles nous rapportaient à manger.
Mais il faut dire que les cafés, ils ont marché quand même, j'ai oublié de le dire. Parce que les cafetiers ont ouvert leur grande ardoise. Même pour mon compte personnel, moi. Au bistrot en face de l'usine, j'ai été 3 mois après la grève pour payer mes dettes. Avec les verres qu'on avait bu, parce qu'on ne voulait quand même pas être là. Mais les commerçants ont été gentils, ils ont ouvert un crédit, et on a payé petit à petit comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a joué aux cartes. On a même joué au dé, au 421, dans les usines, dans presque toutes les usines, il y avait des gars qui avaient un accordéon. On s'est arrangé pour envoyer, pas un commando, mais enfin quelques camarades au bistrot en face, pour amener des litres de bière, de la petite bière de ménage ou quoi, ou caisse, hein, on buvait quelques chopes de bière, et puis on dansait au son de l'accordéon. Ben oui, hein, on pouvait pas être là dans la tristesse.
Banquet au studio Éclair. Ailleurs, la Java, au son de l'accordéon, entraîne les couples grévistes. Au cinéma Tirage Maurice.
Et pendant ce temps, on négocie à Matignon, au gouvernement français, pour aboutir au fameux accord de Matignon. Ces négociations dont vous parliez, Tanguy Perron, qui vont durer plusieurs semaines avec le patronat, pour obtenir une amélioration considérable des droits sociaux et économiques des travailleurs. Des accords qui aboutissent donc aux lois qui mettent en place la semaine de 40 heures, 12 jours de congés payés. Tanguy Perron, ce sont des avancées donc considérables vu les conditions de travail jusque-là.
Tout à fait considérables et inespérées, qui sont accueillies avec joie, qui donnent un sacré sens de responsabilité. Rosener, donc, elle aussi, elle se rappelle qu'elle a dû organiser le syndicat, puisque, elle dit, les adhésions sont arrivées dans des proportions considérables. En fait, donc en 36, elle dit, je ne suis pas allé voir la maire, j'ai tenu la permanence syndicale, et il fallait qu'on organise tout ça, qu'on collecte l'argent des timbres, et c'est seulement en 37 qu'elle est allée voir la maire avec ses copines.
Avec les fameux congés payés.
Voilà un bel acquis qui n'était pas en tête des revendications, mais qui a été arraché de manière supplémentaire. Donc effectivement, il y avait à la fois les promesses électorales qui ont été tenues du Front Populaire en ses débuts, et puis ce qui a été arraché par la grève, donc, et de manière joyeuse et pacifique. Donc effectivement, même si ça dure peu de temps, c'est perçu comme un âge d'or en fait.
Alors le ministre de l'Intérieur, Roger Salengros, à l'époque, donc, fait une allocution à la radio sur les articles qui proclament la liberté syndicale.
Article 1er. La délégation patronale admet l'établissement immédiat de contrats collectifs du travail. Article 2. Ces contrats devront comprendre notamment les articles 3 à 5 ci-après. Article 3. L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens. Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 3 du Code du travail. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
Et des acquis sont nombreux, comme en témoigne cette archive radiophonique de juin 1936.
Victoire. 8 millions de salariés obtiennent satisfaction. La Confédération Générale du Travail, les unions régionales et départementales ont dirigé le mouvement, conduit les grèves, orienté les revendications jusqu'à la victoire définitive, concrétisée dans les accords Matignon. La Confédération Générale du Travail est passée en 3 mois de 1 million d'adhérents à plus de 5 millions de syndiqués. Dans l'ordre, la paix, la discipline, avec l'aide du gouvernement du Front Populaire, elle a apporté à la classe ouvrière de notre pays des avantages considérables. Semaine de 40 heures, congés payés, réajustement des salaires, délégués syndicaux, conventions collectives. C'est la victoire du travail organisé contre l'anarchie et la misère, la possibilité pour des millions de travailleurs de vivre mieux, de se développer et de s'instruire dans une France unie et libre. Victoire.
Et le député communiste et rédacteur en chef de l'Humanité, Paul Vaillant-Couturier, se réjouit de ces accords et de la fin de la grève.
La victoire du Front Populaire dans la Seine ouvre des possibilités nouvelles et magnifiques aux fêtes de Paris. C'est d'abord la certitude que Paris ne sera plus troublée par des émeutes périodiques ou par des menaces d'émeutes. Les ligues factieuses rentreront dans l'ordre. La presse semeuse de panique rentrera dans l'ordre. Paris apaisé verra de nouveau affluer vers lui les visiteurs provinciaux et étrangers qui contribuent à sa fortune. Dans nos municipalités communistes de banlieue, nous avons rendu aux populations le sens de la paix. Tous ceux qui sont informés savent à quel point notre effort a été grand dans ce domaine, au point de vue artistique et sportif. Et nul n'ignore les avantages qu'en retire notre commerce local. Que ne serait-il possible de faire avec une ville comme Paris? Mais il faut hardiment aller de l'avant. Il faut donner à la foule un spectacle dont la tenue satisfasse les plus difficiles. Mais il faut que la participation de la foule soit assurée. Il faut qu'elle se donne en spectacle à elle-même. Il faut qu'elle aime sa fête. Sans négliger la part que peuvent apporter au succès des fêtes de Paris et au développement de son commerce de luxe les favorisés de la fortune, il faut se préoccuper des masses. La joie populaire est consommatrice. Dans le domaine de la résurrection de la fête populaire, il y a tout à faire. Et nous nous y appliquerons d'autant plus ardemment, nous qui travaillons à l'union de la nation française, que la fête populaire est l'expression de l'unité de pensée d'un peuple et l'image de sa force morale. Le comité des fêtes de Paris peut être assuré de notre appui total.
Repos le samedi, congé le lundi et tous les après-midi. bon. Au nom de la Fédération,
Fédération,
nous venons en délégation.
Délégation,
faire au patron,
faire au patron.
L'exposition,
l'exposition
de toutes nos revendications.
Délégation.
Alors Tanguy Perron, ses avancées sociales donc sont immenses, on l'a dit, et des photographies de Willy Ronis qui suit tous ces mouvements de grève témoignent aussi de cette longue bataille.
Oui, il y aura beaucoup de choses à dire sur les très beaux extraits que vous avez choisis, mais je ne sais pas si c'est le lieu.
Allez-y.
Roger Salengro, c'est émouvant de l'entendre parce que il était ministre de l'Intérieur et en fait, effectivement, ce que dit aussi Paul Valland-Couturier, il y a une tension qui vont momentanément juguler, c'est contre l'extrême droite, contre les dangers, contre les émeutes. Donc il y a vraiment un discours d'ordre qui est tenu, mais Roger Salengro lui-même va être victime d'une cabale terrible, d'une violence extrême, hein, qui n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Qui va le pousser au suicide.
Donc l'extrême droite s'acharne contre lui, le vise personnellement et il va se suicider. Donc vraiment, c'est pour rajouter peut-être un peu de gravité. Et Paul Vaillant-Couturier, donc il dirige l'Humanité, mais c'est Pascal Auré qui disait qu'il était un peu comme le ministre de la culture des masses. Même si le Parti communiste n'a pas nommé de ministre pendant le gouvernement du Front populaire, il s'occupe beaucoup, énormément des questions culturelles et la façon avec laquelle il est raisonnable aussi. Comment il insiste sur le commerce, le développement de Paris est très intéressant, sur l'ordre aussi. Et aussi une seconde dimension de son discours très intéressant, c'est comment refaire une fête, populaire et comment le peuple lui-même se doit se mettre en scène. Donc effectivement, les photos qui sont prises à ce moment-là, les films qui sont faits, la Marseillaise plutôt de Jean Renoir, participent à cette représentation. Et Willy Ronis, lui, est bien sûr en sympathie avec le Front populaire. Il était membre de l'AER, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, et il se plonge à corps perdu dans ce mouvement social, tout en étant dominé par le sens des responsabilités. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il doit liquider le magasin le magasin de photos de son père qui écrivait les dettes. Son père vient de décéder. C'est un jeune homme grave, en fait. Hein. Donc, il doit soutenir son petit frère, soutenir sa mère, et il prend des commandes qu'on lui donne. Alors, si ces commandes correspondent à son idéologie, tant mieux, et c'est ce qui arrive avec Regard.
Avec
le magazine Regard, donc il va publier ce reportage sur Citroën, pas tout de suite la photo de Rosener. À cette époque-là, Willy Ronis participe à cet événement festif, joyeux, mais il n'a pas la notoriété de Cartier-Bresson ou de Capa. C'est encore un modeste photographe qui honore les piges et qui doit vite rendre les photos à la rédaction.
Alors on est quand même dans une période aussi en 1936 où on sent les menaces qui montent en Europe avec l'arrivée de Hitler en Allemagne dès 1933, Mussolini déjà depuis 1925 et la guerre d'Espagne qui éclate en juillet 1936. Tanguy Perron, que se passe-t-il justement entre 1936 et 1938? Ce sont des événements extérieurs qui vont marquer profondément aussi les luttes ouvrières.
Bien sûr. Une part importante du peuple de Paris et ses ouvriers syndiqués, la CGT a environ 4 millions d'adhérents, ce qui est considérable. Elle passe de 1 million à 4 millions et s'est réunifiée, elle a 4 millions d'adhérents. Le Parti communiste a augmenté considérablement le nombre de députés. Le Parti socialiste a une force très importante, les radicaux aussi. Donc les masses sont en grande partie politisées et se politisent. Et donc effectivement, mais il va y avoir une hégémonie d'une nouvelle conquête de la classe ouvrière dans les usines, dans la société française, mais cette hégémonie va être momentanée et va être rapidement combattue. Et il va y avoir des divisions au sein du mouvement ouvrier, ne serait-ce que par la guerre d'Espagne. Donc ces grandes conquêtes qui ont été arrachées ou obtenues ont lieu en juin 36, mais dès le mois de juillet, éclate la guerre d'Espagne. Et là, le gouvernement et le Front populaire dans son ensemble, au-delà du gouvernement, va se diviser pour savoir s'il faut soutenir directement l'Espagne républicaine qui a été agressée par les généraux fascistes, factieux, ou si on peut aider, mais pas directement et pas de manière militaire. Et en fait, les communistes et l'aile gauche de la SFIO, en particulier autour de Marceau Pivert, vont réclamer des armes pour l'Espagne, des canons et des armes pour l'Espagne, comme disait Paul Vaillant-Couturier.
Et justement, le Parti communiste français dont vous parliez, dirigé par Maurice Torres, réclame lui aussi davantage d'implication du gouvernement de Léon Blum, du Front populaire.
Déjà, nous avons permis à la classe ouvrière et au peuple de France de résister jusqu'alors victorieusement aux fascistes. Nous pouvons et nous voulons faire plus. Nous voulons écarter à jamais les menaces d'esclavage renforcées qui pèsent sur le peuple de notre pays, aimant notre pays, de bonheur, de prospérité, de liberté et de paix. Nous voulons conduire à l'unité totale de la classe ouvrière. Nous voulons conduire à l'union du peuple de France, à la réconciliation de la nation française contre les 200 familles et leurs agents fascistes. Nous voulons en un mot assurer le salut du pays. Nous qui sommes soucieux du nombre et de la santé de ses enfants, de l'abondance et de la qualité de sa production matérielle et intellectuelle, du rayonnement de sa culture. En avant, sous le grand et invincible drapeau de Marx, Engels, Lénine, Staline, en avant pour le succès du Front populaire, du travail, de la liberté et de la paix. En avant pour le triomphe de la République française des Soviets. Vive la France forte, libre et heureuse que veulent et que feront les communistes.
Et de son côté, le président du Conseil, donc Léon Blum, lui, hésite, il ne veut pas s'engager dans cette guerre, on le critique d'ailleurs pour sa passivité, et il s'en émeut dans ce discours en septembre 1936.
Vous savez bien que je n'ai pas changé et que je suis toujours le même. Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas ? Vous avez entendu l'autre soir ? Vous avez entendu l'autre soir, au Vélodrome d'hiver, les délégués du Front populaire espagnol. Je les avais vus le matin même. Croyez-vous que je les ai entendus avec moins d'émotion que vous ? Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Anda d'Irun, et de l'agonie des derniers miliciens. Est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre ?
La menace d'un conflit mondial est partout. L'Europe chancelle. Les avancées sociales et des accords de Matignon vont être donc difficiles à tenir pour le gouvernement de Léon Blum, qui veut marquer une pause. Alors Tanguy Perron, c'est ce qui fera tomber son gouvernement en juin 1937. Et du coup, il y aura une crainte aussi que ces acquis de 1936 ne soient carrément remis en cause.
Oui, bien sûr. Alors les tensions qui naissent rapidement au sein du Front populaire, vous avez raison, naissent de deux ordres, à la fois pour les questions internationales, avec cette montée du fascisme. On pense qu'il a été jugulé en France, mais aussi ces menaces fascistes à l'international. Donc division au sein de comment réagir. Est-ce qu'il faut aider ou pas directement l'Espagne républicaine ? Petite parenthèse, effectivement, Léon Blum ne va pas soutenir directement l'Espagne républicaine pour ne pas s'aliéner d'autres démocraties occidentales, dont l'Angleterre, qui ensuite lâcheront la Tchécoslovaquie en 1938. Par contre, des ministres vont fermer les yeux. Pierre Cotte va accepter que des armes soient discrètement livrées à l'Espagne républicaine, et dans son cabinet, il y avait Jean Moulin aussi. Autre facteur de division du Front populaire, c'est effectivement, est-ce qu'on continue à revendiquer dans ce climat de tension ? Est-ce qu'on on obtient de nouveaux acquis ? Ou est-ce qu'on se lève le pied, si l'on peut dire ? Et en fait, l'inflation augmente terriblement et fait reculer les gains salariaux, d'une part. Et d'autre part, il y a une sévère contre-offensive de la part du patronat, qui a vraiment chancelé, qui a vraiment perdu le pouvoir absolu dans les usines, et qui, très vite, veut reprendre certains de ce qu'il a lâché. Et les conventions collectives, qui sont un acquis important du Front populaire en 1936, doivent être renouvelés. Et le patronat décide de ne pas les renouveler ou traîne les pieds pour empêcher des hausses de salaire ou du réajustement salarial. Donc ce climat fait beaucoup de tensions. Comme vous l'avez rappelé, Léon Blum déclare une pause dans les revendications, et du coup ça crée des tensions, plus la guerre d'Espagne, plus le patronat donc, qui refuse de ce renouvellement des conventions collectives, et donc deux nouvelles grèves qui ont lieu en mars 1938, en particulier dans la métallurgie parisienne, et en particulier à Citroën, puisque la grande grève part de là, les grèves du printemps. Et puis autre facteur, il y a l'émotion populaire. L'émotion populaire parce que, en fait, les informations circulent et Barcelone vient d'être bombardée de manière terrible, puisque c'est la capitale catalane est bombardée par l'aviation mussolinienne de manière brutale, injustifiée, pour terroriser la population. Et il y a des milliers de victimes civiles. Et là, le peuple de Paris, en tout cas sa fraction la plus politisée, elle est importante, proteste et réclame qu'on agisse directement. Donc la grêve de mars 1938 mêle tous ces facteurs, des facteurs politiques et des facteurs sociaux.
Et justement, on l'entend dans cet extrait du film « Les métallos » de 1938, qui donne très bien le contexte et l'ambiance de ces nouvelles grèves, deux ans après les accords de Matignon.
C'est c'est l'union de ces masses laborieuses dans le Front populaire pour la lutte menée depuis 2 années contre le fascisme, pour la solidarité menée sur le plan international, aussi bien envers l'Espagne républicaine qu'envers tous les travailleurs et combattants antifascistes, pour la lutte en un mot du pain, de la paix et des libertés dans le monde.
Tanguy Perron, vous décriviez tout à l'heure Rose Zehner sur cette photo prise par Willy Ronis lors de ses grèves en 1938. Elle est debout sans doute sur une table et elle prend à témoin ces femmes assises dans un hangar qui l'écoutent. On se demande ce qu'elle leur dit. Eh bien, Rose Zehner s'en souvenait encore en 1982 lorsque le réalisateur Patrick Barberis lui a posé la question dans son film Un voyage de Rose.
Qui est-ce que tu montrais du doigt ?
Mais là, c'est parce que j'étais en train de dire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on m'a répondu ? Savez-vous ce qu'on m'a répondu au ministère de la guerre ? C'est ça.
Donc c'est les salauds que tu montres du doigt ?
Bah bien sûr.
Toi qui, on sent que tu es en train de lancer des choses fortes, quoi.
Hein ? Bah oui, je reviens du ministère de la guerre pour demander qu'on aide pour les gars d'Espagne. Et qu'on m'a répondu, mais madame, vous vous rendez pas compte ? Avant peu, vos fils iront se battre à l'Est. Alors là, j'étais plus qu'en pétard. Hein. Alors je faisais mon compte-rendu, là.
C'est ça.
Je le vivais, hein. J'avais emmené des filles avec moi, au ministère de la guerre. Jamais su son nom, un gars qui m'a reçu.
Después de un año de calabozo, fue deportado a las Islas Lipari. Evadido, llegó a España 3 días después de la sublevación de Franco como piloto. Herido en el frente de Madrid, comisario político de la escuadrilla, muerto hoy en el frente de Teruel. Era un hombre que teníamos en mucho.
Tanguy Perron, Rose Zehner, qui fait référence donc à la guerre d'Espagne, hein, très, très directement, qui a éclaté 2 ans plus tôt en 1936, et à la menace croissante de la Seconde Guerre mondiale déjà.
Oui, c'est dans toutes les têtes, c'est vraiment dans l'air du temps, et même au sein du cinéma français, tout à l'heure on a entendu un extrait, alors c'est juste avant la victoire du Front populaire qu'on entendait Torres, un extrait de La vie est à nous, autant des films de Renoir, parce que c'est Renoir ce qui est réalisé, mais je pense au Crime de Monsieur Lange, participe à cette euphorie, et très vite il y a de nombreux signes, y compris dans des films de Carnet, vers cette désespérance qui s'installe, enfin cette inquiétude et cette angoisse. Et les signes de cette angoisse sont manifestes, parce qu'il y a les images de la guerre d'Espagne, il y a Hitler qui est de plus en plus agressif. On pense que le printemps n'est que de courte durée. Et en même temps, ce qui est très intéressant de ce que dit Rose Zehner, alors je l'écris dans ce petit livre, c'est que la mémoire a plus d'un tour dans son sac. C'est-à-dire que la presse syndicale, la presse politique, la littérature politique, quand ils parlent de la grève de la météorologie en mars 38, ils parlent que des conventions collectives et dans les revendications. Et en fait, là j'avais vu ça dans la presse de droite et dans ce que dit Rose Zehner beaucoup plus tard, ce qui participe à la décision et à la grève, à cette grève pour laquelle s'implique beaucoup Rose Zehner, c'est la guerre d'Espagne aussi. Elle le dit très nettement.
Alors, l'histoire de cette photo de Rose Zehner lors de l'occupation de l'usine Citroën, qui aurait pu donc ne jamais paraître, Willy Ronis donc se confie en 1989 dans l'émission Mémoire du siècle sur France Culture et il revient sur sa rencontre en 1982 avec Rose Zehner.
Cette photo a été donnée comme illustration des articles. Et cette photo est tombée par l'intermédiaire d'une de ses amies sous les yeux de l'intéressée, qui s'appelait Rose Zehner, qui était une syndicaliste non politique. Elle ne s'occupait que du syndicat et à ce moment-là, elle s'occupait aussi de nourrir les enfants des réfugiés espagnols. Alors, cette femme qui s'est vue, donc, pour la première fois dans un journal, m'a écrit, au bon souhait du journal, cette lettre était superbe, parce que cette femme n'avait perdu aucun de ses enthousiasmes d'antan. Elle était retraitée à l'Aigle, dans l'Orne, et je lui ai répondu, bien sûr. Je lui ai répondu avec toute l'émotion que je pouvais mettre après avoir lu une lettre d'une telle qualité. Et nous avons commencé à correspondre par téléphone. Et un film a été fait sur nos retrouvailles. Sur nos retrouvailles, rue Saint-Charles, dans le petit bistrot qu'elle avait acquis fin 38, après avoir été renvoyée définitivement de chez Citroën. Et elle avait acquis ça avec son mari en s'endettant d'une façon totalement déraisonnable, parce que elle voulait que ses camarades du syndicat aient un endroit pour se réunir près de l'usine dont elle avait été chassée.
Et on écoute un extrait de ce documentaire de Patrick Barberis, Un voyage de Rose sur les retrouvailles entre Rose Zehner et Willy Ronis en 1982.
Il y a des lettres qu'on espère recevoir. La vôtre me bouleverse et je suis heureux que vous vous soyez reconnu. Je suis heureux de vous informer que cette photo émeut beaucoup de gens. Elle figure, page 113, dans mon album « Sur le fil du hasard » aux éditions Contre-Jour, novembre 1980. Elle se trouve en ce moment à Beaubourg, à l'exposition Paris-Paris 1936-1957 et est parue dans Le Monde de ce 4 juin, page 17. Vous voyez, vous êtes célèbre. Je viens de lire votre lettre et j'en ai des larmes aux yeux. Merci de m'avoir écrit. Je vous adresse, chère madame, l'expression de mon profond respect.
Ah, Rose Zehner. Eh bien, je peux vous embrasser, je crois.
Bien sûr. Eh bien, ça fait plaisir, hein.
Non, moi aussi, ça me fait un grand plaisir.
Oui,
c'est un grand
jour pour moi. Tantôt.
Vous êtes arrivé hier après-midi.
Oui, hier après-midi.
Vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit.
Oui, puis on a fait un petit tour en voiture encore ce matin.
Bien.
J'étais jusqu'à mon appartement, dans la rue ou la fond, où il y a la photo avec tous les... avec la grande banderole.
Ah bon?
Oui. Je l'ai montré à la dame qui m'accompagnait.
Oui.
Ça fait plaisir.
Oui, ça fait plaisir. Ben écoutez, ça fait quelques années qu'on se parle au téléphone et qu'on s'écrit.
Mais oui, et qu'on s'embrasse dans les lettres.
Et qu'on s'embrasse dans les lettres. Ben aujourd'hui, ça a été fait pour les presse.
Tanguy Perron, c'est extraordinaire ces retrouvailles de Willy Ronis avec Rose Zehner qu'il a photographié plus de 40 ans auparavant. Et on sent que le combat syndical des années 30 ne l'a pas quitté.
Non. Alors même s'il y a des effets de mémoire, et des fois ça ne correspond pas, c'est pas ce qu'on demande à la mémoire, à l'exacte réalité. Il y a forcément des choix qu'opère la mémoire. Mais ce qui est intéressant aussi dans ces beaux entretiens, ces beaux enregistrements, c'est qu'on voit deux cultures en fin de compte. Il y a encore une culture populaire chez Rose Zehner qui ne l'a pas quitté, son côté gouailleur, son accent populaire, et Willy Ronis était toujours plus réservé. Et c'était un homme qui fréquentait beaucoup de la petite bourgeoisie, mais très cultivé, qui fréquentait le Louvre, qui s'exprime de manière très précise et parfois un peu précieuse. Et donc pour qu'il aille vers cette femme du peuple, il fallait aussi qu'il surmonte une timidité. Et ça, c'est une idéologie commune, à mon avis, et un élan commun qui a permis cette rencontre. En fait, Rose Zehner, en 38, contrairement à ce qu'elle dit, elle est communiste. C'est une communiste atypique, mais c'est et son mari l'est aussi. Après, dans les années 80, elle va revenir sur la guerre d'Espagne, elle a tout à fait raison, elle dira qu'elle n'est ni communiste ni socialiste, c'est sa position du moment, mais qu'elle est syndicaliste et antifasciste. Et en fin de compte, oui, ça définit grandement une part de son activité militante.
Une activité militante qu'elle a beaucoup menée donc en 1938 jusqu'à son licenciement.
Oui, donc elle participe à ces grèves de mars 38 et pas qu'un peu. Et puis il y a les fameuses grèves de novembre 38 qui marquent vraiment la fin du Front populaire. C'est-à-dire que là, les socialistes ne sont plus au gouvernement, les communistes n'y ont pas été, et il n'y a plus que les radicaux, et dont une partie pense de plus en plus à droite, et en particulier Daladier. Et il y a les accords Daladier, à la fois il y a un recul devant Hitler manifeste, et puis on revient sur les acquis du Front populaire. Pour la CGT, ils vivent ça comme une provocation, mais la CGT qui elle-même traverse de différents courants. Donc une grève est décidée en novembre 38. La radio est reprise en main par l'État et prépare psychologiquement la population à isoler les grévistes. Les forces de l'ordre sont présentes et du coup cette grève est un échec. Pas total, mais c'est un échec. Et la répression devient très forte. Et Rose Zehner va être licenciée en novembre 38.
Extrait du film Les Métallos sur les grèves de 1938.
Pendant des années et des années, les patrons ont violé systématiquement les lois, posant la question de la liberté du travail, préférant faire rentrer à coups de millions dans des usines comme celle-ci, des hommes pour briser les grèves. Tout serrons les reins et en avant derrière notre syndicat.
Yeah.
D'ailleurs, dans le documentaire de Patrick Barberis, Rose Zehner raconte ses combats pour préserver les acquis de 1936, vous le disiez. Et elle retrouve aussi d'anciens compagnons qui décrivent son caractère. Il se retrouve donc dans cet ancien café de Rose, dans le 15e arrondissement à Paris, en 1982, avec Willy Ronis. Et puis, non loin de là, sur l'ancien site désaffecté, pas encore détruit, de Citroën Javel, où ils ont mené ces batailles syndicales.
Rosette, avec sa tête d'alard, elle n'a jamais voulu rentrer. Elle a dit non, moi je leur ai dit, c'est des salauds, il faut lui avoir. Ils ont voté la grève hier, ils rentrent aujourd'hui, moi je rentre pas. Alors, inutile de te dire qu'elle a été immédiatement liquidée. Alors là, ça a été la dernière fois, mais avant, elle a été liquidée deux, trois fois. Une fois, elle avait failli être liquidée parce qu'elle a foutu sur la gueule à son contremaître. Il a foutu une paire de claques. Alors évidemment, ça s'est pas bien passé, alors ils l'ont mutée. Il s'est dégonflé un peu avec elle. Hein. De Citroën 15e, ils l'ont muté à Levallois, à cette époque-là, quand elle était à la sellerie. Puis après, bon, bah, légèrement, elle est revenue chez Citroën, là, dans le 15e.
Elle était connue, alors, chez Citroën?
Comme le loup blanc.
Ah bon?
Toutes les histoires où il y avait un peu de pagaille, tu pouvais retrouver la Rosette derrière. C'était une militante du tonnerre de Dieu, hein. C'était une fille. Elle avait du battant, hein. Aussi bien pour la discussion avec les tauliers qu'aussi bien à la châtaigne.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans la lutte?
Comment?
Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans la lutte pendant la
Mais
grève?
Mais toutes les femmes, hein, Guettin. Vous avez bien vu les photos où je suis en train de prendre la parole. Mmh. Le réfectoire Ballard était plein de femmes. Elles amenaient leurs chaussettes, à raccommoder leurs chaussettes. Elles ne perdaient pas leur temps. Et le soir, on les renvoyait. On les renvoyait chez elles. On ne les couchait pas, mais les hommes restaient. Et les femmes revenaient le lendemain.
Il y en avait qu'une qu'il fallait mettre dehors, c'était Rosette. Ah, ou quatre fois, c'était viré.
Oh oui, bien quatre fois. Bien quatre fois.
J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je
Après cette grève de mars 1938, immortalisée par Willy Ronis sur plusieurs clichés, dont celui de Rose Zehner, sur le site de Citroën à Javel, les syndicats, notamment la CGT, appellent à une grève générale, vous en parliez, Tanguy Perron, juste avant, pour paralyser le pays, donc le 30 novembre 1938, pour protester contre les décrets qui mettent en péril les acquis sociaux de 1936. Une grève suivie dans le secteur privé, mais peu dans le secteur public et les transports, et cette fois, la répression, vous le rappeliez, contre les grévistes est très forte. Des milliers de travailleurs sont licenciés, dont Rose Zehner.
Tout à fait. Certains se licencient. À Renault, où la grève éclate quelques jours même avant le 1er novembre, quelques semaines avant le 1er novembre, les forces de l'ordre là interviennent, contrairement à 36, hein, et des grévistes sont tabassés. Certains vont être emprisonnés. Puis, parmi les milliers licenciés, dont Rose Zehner, on sait qu'il y a peu d'espoir en fait pour retrouver du travail. Des listes noires se remettent en place. Donc, d'ailleurs, ça a fait allusion à ce que disait Salin Gros au début. On revient sur la liberté d'opinion et la liberté de se syndiquer. Effectivement, la CGT est quasiment unique dans le paysage syndical. Il y a la CFTC pour les travailleurs chrétiens et la CGT. Il n'y a pas de pluralité syndicale à cette époque-là et ni le morcellement actuel. Et donc la CGT est très forte. C'est considérablement renforcée en 36, mais malgré tout, cette force-là ne va pas suffire, parce que la répression va être effectivement brutale, et il y a des divisions au sein même de la CGT. Du coup, Rose Zehner, elle participe avec entrain, quasiment avec rage à cette grève-là, parce qu'elle voit que ça ne prend pas tout à fait. Et la technique ouvrière est de glisser des meneurs à l'intérieur de l'usine pour conserver des militants, pour pouvoir reconstruire des bases syndicales ou pour pouvoir redéclencher des grèves. Elle s'y refuse et ne veut pas remettre les pieds dans l'usine, en tout cas le jour de la grève. Elle est aussi de licenciée et là on sent que les temps ont changé, les rapports de force ont changé et qu'elle n'a aucune chance de retrouver du travail.
Et ce n'est donc qu'à la fin de la guerre, en 1945, que le combat syndical va reprendre et c'est ce qu'on entend dans cette archive du 1er mai 1945.
Nous savons tous que la lutte n'est pas terminée et va demander encore bien des efforts pour que soit définitivement abattue la tentative criminelle du fascisme de maintenir par la force un régime d'injustice économique et sociale. Nous tenir prêts à cette grande lutte contre le danger du fascisme toujours menaçant, telle est la signification du 1er mai d'aujourd'hui. L'union des Français, l'unité solide des organisations syndicales dans la CGT assureront cette deuxième victoire. Tous unis, en avant pour les grandes tâches qui nous appellent. Vive le peuple de Paris, toujours vigoureux, idéaliste et enthousiaste. Vive l'action des travailleurs pour une France libre et républicaine. Vive l'unité ouvrière.
Pour conclure, Tanguy Perron, ce combat syndical avec de nouvelles avancées comme la sécurité sociale reprend donc avec force dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, d'ailleurs le mouvement syndical n'a pas été inactif pendant la Seconde Guerre mondiale non plus, mais il a participé grandement à l'effort de la résistance. À la Libération, c'est un contexte tout autre. Il y a à nouveau des ministres ouvriers qui vont participer à des grandes conquêtes. La sécurité sociale, vous le disiez, il y a le statut des fonctionnaires, il y a le statut des dockers, celui des mineurs. Vraiment, ces conquêtes sont extrêmement importantes et on voit comme un nouveau 36 renaître, effectivement. Et ça peut justement montrer la patience de l'histoire, en fait, hein. Puisque 1936 est très joyeux, 1938 est inquiétant, il y a Vichy comme une revanche sur le Front populaire et la Libération une revanche sur la revanche.
Merci beaucoup Tanguy Perron de nous avoir éclairé en tout cas sur ces combats syndicaux entre 1936 et 1938 à travers cette photo dans votre ouvrage Rosenner et Willy Ronis, Naissance d'une image, paru aux éditions de l'Atelier.
Il est revenu le temps du muguet. Comme un vieil ami retrouvé, il est revenu flâner le long des quais jusqu'au banc où je t'attendais. Et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire aujourd'hui. Plus beau que jamais. Le temps du muguet ne dure jamais plus longtemps que le mois de mai. Quand tous ces bouquets déjà seront.
La marche du monde vous était proposée cette semaine par Véronique Guémard, réalisée par Sophie Janin. Un épisode à retrouver sur le site RFI.fr. Twitter et Facebook, réagissez, exprimez-vous, cette émission, c'est la vôtre.